solidarité. Croiser les luttes, unir nos voix.
Festival des solidarités.
S'écouter.
Unir nos voix.
S'engager.
Résister.
Comprendre.
Respecter.
Déblayer.
Unir nos voix.
Bonjour à vous qui écoutez cette émission intitulée « Les grises comptent pas pour des prunes » et dédiée à un sujet encore tabou dans notre société, l'âgisme. Alors le temps passe inexorablement et son emprise finit par étreindre tout le monde. Pourtant l'histoire n'est pas pareille selon qu'on soit un homme ou une femme puisque même face au temps, les inégalités liées au genre sont flagrantes. Alors pourquoi est-ce qu'on nous vend des crèmes anti-âge sur des publicités sur lesquelles apparaît une jeune femme de 20 ans dont les traits ont par ailleurs été photoshopés? Pourquoi, une fois 50 ans, les femmes disparaissent des écrans de cinéma? Pourquoi on nous balance des compliments bien toxiques du genre « t'es bien conservé, toi, pour ton âge ?» Bref, pourquoi on nous apprend à malmener la personne que nous sommes voués à devenir? Alors nous vous proposons dans cette émission de poser un regard sans tabou sur la vieillesse et la manière dont elle est perçue grâce à nos invités. Alors nous avons autour de cette table Sandra Malempré. Bonjour Sandra.
Bonjour Mako. Je suis enchantée d'être là aujourd'hui et de participer à votre émission qui est très intéressante. Moi, j'ai une agence de mannequins à Liège depuis 35 ans. Ce qui se développe actuellement le plus, c'est tous les âges et tous les styles, dans la publicité, que ce soit TV ou cinéma, et beaucoup, beaucoup de seniors, évidemment. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire.
Super, merci Sandra beaucoup. Et effectivement, au sein de son agence, il y a une catégorie qu'on appelle Sylve. Alors, Bénédicte Janssen, salut Bénédicte.
Coucou.
Alors, toi, tu es chargée de projet pour l'ASBL IH, qui milite contre les inégalités sociales et l'âgisme. Je n'en dis pas plus, tu présenteras l'IH tout à l'heure. Et avec nous également, Pascal Brochet, dite The Voice. Vraiment. Alors, Pascal, au cœur de l'ASBL Reste Senior, elle s'attelle au quotidien à lutter aussi contre les maltraitances que subissent les aînés. Mais tu nous expliqueras un petit peu plus ça, enfin, ça plus amplement tout à l'heure. Alors, Bénédicte, parle-nous un petit peu de l'IH.
Eh bien, l'IH, c'est une ASBL reconnue en éducation permanente du réseau Solidaris. Et nous, notre core business, c'est de travailler aux droits des seniors tout au long de la période qu'on appelle senior, donc c'est-à-dire de la fin de carrière jusqu'à la fin de vie. Donc on s'attelle autant à leurs droits à la pension que leur parcours de soins, leur droit à des soins corrects, ou encore la fin de vie, le droit à l'euthanasie, etc. Et l'âgisme alors qui touche toute cette population du début à la fin.
Merci Bénédicte. Pascal, justement, Respect Senior, tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur cette assos?
Oui, donc Respect Senior, c'est l'agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés, donc Respect Senior, c'est plus court. Et donc notre quotidien, c'est d'accompagner les aînés, d'accompagner les professionnels, d'accompagner les familles, d'accompagner en fait toute personne qui se pose des questions sur le fait que ce soit au nom de la maltraitance. Parce que les formes peuvent être psychologiques, financières, ça peut être des négligences, ça peut être des enjeux de maltraitance civique. Donc voilà, il y a une multitude de façons de pouvoir malheureusement maltraiter un aîné. Et donc on fait de la prévention et de l'accompagnement de situations en région wallonne.
Merci beaucoup. Alors Sandra, rappelle-nous le nom de ton agence et puis comment ce projet est arrivé en fait d'agence.
Tout d'abord, moi j'ai eu une carrière de mannequin pendant des années, donc je ne vais pas me vanter, mais j'ai eu beaucoup de succès. C'était aussi l'époque où il n'y avait pas beaucoup de mannequins, on était des stars, on venait nous chercher en limousine, voilà, tout ça a bien changé. Maintenant, tout le monde a sa chance, parce que actuellement, donc en s'adaptant au nouveau concept, c'est maintenant tous les âges, tous les styles, donc ce qui implique aussi des papis, des mamies, etc., des petits-enfants, et moi j'ai mon agence à Liège, donc c'est Sandra Agency, vous verrez un petit peu sur Internet, et je fais appel, en effet, à des seniors qui ont envie de faire des publicités, c'est tout à fait possible, de m'envoyer un petit mail sandra@sandraagency.be où vous faites le site, voilà. Et on voit aussi nos activités sur le Facebook, Donc des films, des vidéos, des défilés pour seniors. On vient de faire Max Mara à Maastricht, un magnifique défilé. Des vidéos pour Thomas et Piron, avec papy, mamie, les enfants, des scènes de famille. Voilà, c'est la mode et nous devons en profiter parce que ça donne la chance aussi à des personnes qui, normalement, dans le business beauté, n'avaient pas spécialement des rôles. Voilà, c'est ça que j'ai tout dit.
Justement, rentrons dans le vif du sujet, Bénédicte. L'âgisme, c'est quoi exactement ?
Eh bien, l'âgisme, ce n'est pas encore super connu comme terme, mais pour le comprendre, on peut le rapprocher de termes qui sont plus connus et malheureusement toujours d'actualité, comme racisme et sexisme. On retrouve ce fameux suffixe en « isme » qui désigne une attitude par rapport à. Et comme le racisme et le sexisme, ben c'est une attitude négative, ici pas par rapport à la couleur de peau d'une personne ni par rapport à son genre, mais bien par rapport à son âge. L'âgisme, c'est un terme qui est apparu quand même beaucoup plus tard que racisme et sexisme, puisqu'il a été utilisé pour la première fois en 1969 seulement, par un gérontologue américain qui s'appelle Robert Butler, dans un article où lui, il recherche, il fait une étude sur le mépris social envers les personnes âgées et la peur en fait de la vieillesse que lui il décrit carrément comme une psychose globale de notre société qui se renforce de plus en plus. Donc voilà, l'âgisme, c'est toute cette peur de la vieillesse, les stéréotypes qui entourent la vieillesse, le vieillissement et qui mènent à des discriminations concrètes dans notre vie de tous les jours.
Justement, par rapport à ces discriminations et aux cas concrets, Pascal, cher Espèce Senior, est-ce que vous avez quelques exemples qui illustrent à quel point l'âgisme est présent à tous les niveaux de notre société, de la forme la plus atténuée finalement jusqu'à la plus extrême ?
Oui, en fait, comme dit Bénédicte, on se rend compte en fait que des discriminations, il y en a beaucoup et qu'on n'est pas toujours conscient en fait que cet âgisme est présent dans notre société. Alors peut-être que déjà on est âgiste par rapport à soi-même parce qu'on va se dire je suis trop vieux pour faire du parachute, je suis trop vieux pour faire du skateboard. Voilà, on va dire à quelqu'un oh tu ne fais pas ton âge, comme tu disais, et c'est assez est-ce que c'est un compliment, c'est pas un compliment, qu'est-ce que ça veut dire, et donc ça veut dire qu'il faut pas vieillir. Il y a tout ça. On se rend compte aussi que par rapport à l'âgisme, parce que tu parles de situations plus extrêmes, mais dans nos libertés même, l'âgisme va intervenir, puisque par exemple, quand c'était le Covid, la période du Covid, il y a eu des répercussions importantes sur la liberté des gens. On va décider de régimes d'exception et donc de ne pas laisser les gens, finalement, juste sur base du critère de l'âge, sortir peut-être de la même façon que les autres, notamment en maison de repos. Donc il y a eu quand même des choses pour les protéger, mais c'est inquiétant. Et Bénédicte parlait aussi de fin de vie. Mais je pense que le fait de ne pas pouvoir être entendu dans ses désirs, parfois par rapport à la fin de vie, c'est quand même quelque chose de problématique. On va aussi de façon quotidienne, alors je ne sais pas si c'est plus ou moins grave, mais je pense que la personne elle-même peut l'apprécier. On est en face d'une personne plus âgée, on va parler plus fort, comme s'il y avait cette espèce de présupposé que tous les aînés sont sourds, ce qui est quand même assez perturbant, ou de tutoyer la personne. On voit les gens à partir d'un certain âge, quand ils sont jeunes adultes, et puis il y a une espèce de courbe comme ça qui redescend avec une espèce de date de péremption qui ferait qu'on devrait tout à coup parler aux gens de nouveau en tu, ou considérer qu'ils ne sont plus capables de faire des choix élémentaires dans leur vie, et on va décider pour eux. Alors, parfois pour les protéger, ça va être le moteur, c'est un moteur d'amour, parce que je t'aime, je ne veux pas que tu prennes le risque de faire telle ou telle chose, ou parce que je sais, parce que je suis le soignant, que j'ai étudié pour, et donc je décide que vous ne devez peut-être pas faire cette opération, je ne vous la propose même pas. Alors que peut-être la personne est marathonienne et que pour elle, pouvoir bouger, c'est très important, c'est une opération du genou. Donc voilà, ce sont des exemples, j'ai envie de dire multiples et variés, mais on est tous plus ou moins âgistes sans en prendre conscience, parce que qui n'a jamais dit « Oh, c'est encore un vieux au volant » ou une vieille, parce qu'il y a des doubles discriminations, ou au supermarché, à 9h, ils font la file devant, donc ça a à faire. Donc voilà, c'est des discours qu'on entend quand même souvent.
Mmh. Et j'ai envie de vous demander à toutes les deux, à Pascal et à Bénédicte, est-ce que finalement ce phénomène et ces discriminations liées à l'âge, est-ce qu'elles ne touchent que les seniors ?
Alors non, même si au départ l'âgisme c'est un terme qui a été vraiment utilisé pour parler de la discrimination envers les seniors, avec les années elle a évolué et à juste titre pour englober vraiment toutes les discriminations qui sont basées sur l'âge, donc c'est-à-dire que ça soit un âge jeune ou un âge âgé. Et il y a effectivement de l'agisme envers les jeunes aussi. Il y a des stéréotypes envers les jeunes. Un exemple assez concret de ça, c'est ce qui s'est passé lors des marches pour le climat, qui avaient été menées par beaucoup de jeunes étudiants. Et beaucoup de discours anti se basaient vraiment sur de l'agisme envers les jeunes, en les renvoyant au fait qu'ils sont jeunes, qu'ils ne devraient pas parler de certaines causes, qu'ils devraient rester à leur place d'apprenants et pas prendre la parole, etc. Donc ça, c'est aussi de l'agisme. Donc oui, ça existe envers les jeunes aussi.
C'est un phénomène que tu confirmes aussi, Pascal.
Oui, tout à fait. On l'entend vraiment pour les jeunes et pour les plus âgés. Avec le fait de dire, par exemple, les jeunes n'ont pas de volonté, ils ne veulent pas travailler, ça ne les intéresse pas, etc. Ou dans le monde du travail, par rapport à des plus âgés, où on a un peu l'impression que ça devient compliqué de pouvoir se réorienter, de pouvoir changer de boulot à un certain âge. Alors, ces lectures que les vieux voudraient plus peut-être travailler, que les jeunes seraient grossiers, fainéants, on les entretient en ne se posant pas peut-être la question à nous-mêmes. Tiens, jusqu'où est-ce que je me sens trop vieux pour faire ça, je me sens trop jeune pour faire ça. Si on est face à ce constat et qu'on l'entretient chez les autres, ça ne va pas s'arranger. Et donc le fait de le nommer, de le désigner de plus en plus, je pense que ça peut bouger un moment.
Sandra Malempré, je précise que c'est toi qui as souhaité que je te tutoie. Et voilà, c'est un vrai plaisir.
C'est comme une famille, on s'entend bien.
Mais Sandra, justement, j'ai une petite question un peu inédite pour toi. Est-ce que tu te sens plus libre depuis que tu es plus âgée?
Je me suis toujours sentie libre, donc rien n'a changé. Je pense que ce n'est pas une question d'âge de se sentir libre, c'est de se sentir bien et de faire aussi des choses que tu aimes bien faire. C'est ça, c'est important.
Mais tu t'autorises plus de choses aujourd'hui que quand... Enfin, la Sandra qui avait 20 ans et qui était dans les canons de beauté du mannequinat, est-ce que la Sandra d'aujourd'hui se sent plus autorisée à poser un cadre, à dire quand ça ne va pas, etc.
On attrape évidemment ce qu'on appelle un sale caractère. Tout doit être parfait et on rousse bête, mais la finalité, c'est super, quoi, ça marche. Mais je me suis toujours sentie libre et je me sens toujours bien actuellement. Ça n'a rien changé pour moi. Mais je vous dis, c'est une question aussi de morale, une question de se prendre en charge, de savoir ce qu'on veut dans la vie, de faire ce qu'on veut dans ses moyens. Bien sûr, il y a toujours moyen. Voilà, il y a découvrir des choses qu'on ne faisait pas parce qu'avant, il y avait des enfants, les petits-enfants, on y était fort occupés. Maintenant, on a le temps de s'occuper de soi-même. Question de maquillage, d'habillement, de se promener dans la nature, de s'occuper des animaux abandonnés, ce que je fais, voilà.
Mais on se connaît mieux, en tout cas, l'âge venant. Alors, Bénédicte Janssen, ces discriminations, elles font l'objet de poursuites en principe. Est-ce que tu as quelques chiffres qui permettent de prendre conscience qu'elles existent réellement ?
Alors, il y a eu un rapport très intéressant d'Amnesty International qui est sorti en 2021 et qui conclut qu'il y a 7 personnes sur 10, 7 seniors sur 10 qui sont victimes d'agisme et environ 20% de seniors qui se sentent carrément mis au ban de la société. Pourtant, effectivement, il existe des lois. Donc l'agisme est repris dans la loi antidiscrimination de 2007, qui a encore été renforcée récemment. Et il est repris aussi dans les critères de discrimination auxquels on peut se plaindre auprès d'UNIA. Alors, qu'est-ce qu'a dit cette loi et qu'est-ce que dit UNIA ? Eh bien, ils disent que c'est interdit de discriminer quelqu'un sur la base de son âge, sans autre raison objective. Et cette raison objective ne peut pas être financière. Donc ça veut dire qu'un employeur ou une employeuse ne peut pas refuser d'engager quelqu'un parce qu'il le juge trop âgé et parce qu'il devrait le payer plus cher. Ça, c'est normalement, c'est interdit. Et la loi prévoit des sanctions qui sont quand même assez lourdes, puisqu'elles vont de 50 à 1000 euros d'amende et d'un mois à un an d'emprisonnement, plus un dédommagement à la victime et des astreintes jusqu'à ce que la discrimination cesse. Dans les faits, l'agisme est encore très peu poursuivi et il est encore très très présent. Par exemple, je pense tout simplement à certains prêts ou à certaines assurances qu'on ne donne plus à des personnes passées un certain âge. Et le critère secondaire de ça, c'est la raison financière. Et ça, normalement, c'est interdit. Mais le problème, c'est que c'est encore considéré comme justifié et justifiable par la société tout entière, par les politiques, etc. Et puis aussi, les gens ne connaissent pas l'agisme. Donc, ils vont pas forcément porter plainte parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont discriminés sur la base de leur âge. Mmh.
Mais je vois Pascal Brochet de Respect Senior qui acquiesce également.
En fait, vraiment, dans cette lecture agiste, on a une démarche complémentaire, je pense. Cette culture de l'agisme qui est méconnue et pas identifiée, ben, ça va amener à banaliser, à normaliser le fait, par exemple, qu'on va dire ben, « à ton âge, tu vas quand même pas encore acheter une maison. Ben, »« Ah non, tu vas pas racheter une voiture, ça ne vaut pas la peine. » Et donc, il y a une lecture qui est presque banalisée, oui, dans l'opinion publique. Et évidemment que je vais avoir... Ta maison, elle est trop grande, donc je vais hériter de façon anticipée. Cette voiture, tu ne l'emploies pas, donc donne-la-moi. Et donc, ça amène finalement une intériorisation de la part des aînés de cet agisme où eux-mêmes n'ont pas toujours conscience de l'entretenir. Ou alors des discours qui sont un petit peu marrants, mais qui existent aussi, d'aînés envers d'autres aînés. Moi, je ne veux pas être avec des vieux. Quand on a quelqu'un qui a 85 ans versus quelqu'un qui en a 90, il peut avoir ce genre d'attitude aussi. Donc, c'est quelque chose, en fait, vraiment... c'est important d'en parler pour l'identifier, parce que je crois que tous les autres mots en « isme » quand même sont davantage connus. On parle davantage du sexisme, du racisme, mais là, on a quelque chose qui s'auto-entretient dans notre société parce que peut-être, on pense qu'il ne fait pas bon vieillir, alors que finalement, c'est quand même une chance. Si on arrive à vieillir, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus faire certaines choses ? C'est à soi de le décider, finalement.
J'imagine, Sandra, femme libre et qui a toujours été actrice de sa vie, ça te parle de te dire « c'est à moi de décider de ce que je peux encore faire à l'âge que j'ai ».
Oui, c'est certain, mais tout le monde peut décider. Je pense qu'on est seul libre de faire dans la vie ce qui nous convient. Après réflexion, voilà, j'ai envie de faire ça. Il y a tellement de choses à faire. Il faut bouger, il faut surtout pas rester à la maison et se déprimer, écouter des mauvaises nouvelles à la télévision. Non, il faut pouvoir se gérer aussi, dire voilà, moi je vais de l'avant, j'ai encore des belles années devant moi. Et voilà, c'est une nouvelle vie, pour moi c'est une nouvelle vie. C'est une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre.
On sent que tu savoures vraiment. Alors Sandra, à partir de 40 ans, effectivement, les femmes ont vraiment tendance à disparaître des écrans de cinéma et des affiches de publicité. Alors ouvrir une agence de mannequins silver, senior, est-ce que c'est une façon de lutter contre cette invisibilisation, de rendre visibles les personnes qui ont avancé dans leur âge et dans leur vie?
C'est-à-dire que j'ai des demandes, donc je suis obligée d'y faire face. C'est la tendance, il faut suivre.
Est-ce que c'est facile de trouver des candidates et des candidats à répondre à ces demandes, justement?
Oui. Mais écoutez, après autant d'années, j'ai mon bureau depuis plus de 35 ans, on va le dire. Donc, les gens viennent spontanément. C'est souvent les petits-enfants. « Allez, mamie, vas-y, va t'inscrire, t'es jolie. » Et puis la mamie vient et elle décroche un contrat 15 jours après. Alors, c'est comme un petit miracle. Et voilà, c'est un bonheur.
Et puis tu me parlais récemment effectivement d'une de tes mannequins qui a 97 ans, c'est ça ?
83.
Pardon, 83, mon Dieu, j'ai vieilli.
Cette non, c'est pas grave.
Alors qu'il y a 83 ans et c'est un petit miracle, tu en es très fière aussi.
Oui, ça a fait la une des journaux et des télévisions. Elle vient s'inscrire, elle a travaillé aussi dans un corps diplomatique, donc c'est une personne qui présente bien, qui parle bien, et elle dit voilà, je viens, ce sont mes petits-enfants qui me poussent, allez mamie, vas-y, vas-y. Et elle vient s'inscrire un peu par défi pour faire plaisir, et puis 15 jours après, j'ai un coup de fil d'une agence de Paris, agence de mannequins, là, nous avons besoin de votre modèle. Et moi, je dis en rigolant, bien sûr, parce que j'ai déjà essayé de collaborer avec Paris, mais c'est pas possible, on ne gagne pas bien sa vie, contrairement à ce qu'on fait croire. Mais moi, je dis, ah bon, il n'y a pas d'agence de mannequins à Paris, alors je me suis mise à rire, et le type a trouvé ça sympa. Et en effet, il fallait absolument ce genre de personne, et à 83 ans, ben, elle a fait le clip, elle a fait le catalogue, elle a eu dans les journaux, elle a été invitée à la RTB, à RTL, on n'est pas des pigeons, elle était partout. Ça a fait... c'est quelque chose qui arrive.
C'est une petite victoire pour toi aussi, malgré tout, de voir...
Ça fait plaisir. Je suis très contente. J'aime beaucoup m'occuper des gens et tout se passe toujours bien chez moi. Les clients sont toujours contents. Ils disent que mes mannequins sont sympas. C'est vrai que chez nous, à Liège, hein, puisque mon bureau est à Liège, eh bien, c'est vrai qu'ils sont très contents quand ils ont un contrat. Contrairement, paraît-il, à Paris, où les mannequins tirent la tête, à ce qu'on me dit. Donc, beaucoup de cinéastes, de caméramans parisiens viennent faire les films en Belgique parce qu'on est sympa, il n'y a pas besoin d'autorisation très compliquée, contrairement à la France. Donc voilà, ça se passe très bien. On fait des films, des petites vidéos, des catalogues, on fait un peu de tout.
Peut-être qu'on est un petit peu moins décomplexé, qui sait. Plus décomplexé, pardon. Bénédicte, bon, c'est aussi une petite question inédite, mais il y a quand même des figures aujourd'hui, des personnalités qui décident de se lever contre l'agisme. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes, par exemple, et quel retentissement médiatique ça a, comment c'est reçu?
Il y a eu, par exemple, Sophie Fontanelle, hein, qui a écrit un livre, une apparition sur son journal de bord, en fait, du moment où elle a décidé de laisser ses cheveux devenir gris, donc arrêter les colorations, etc. Et voilà, c'est, elle a aussi posé nue il y a récemment dans la couverture du Elle, parce que voilà, elle a reçu aussi énormément de commentaires négatifs quand elle a posté des photos de ses cheveux qui devenaient blancs, etc. Parce que c'est encore perçu, surtout pour les femmes, comme un signe de laisser aller ou presque de saleté. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui lui avait dit « Ah, mais si tu te colores plus les cheveux, est-ce que ça veut dire que tu vas aussi arrêter de te laver ?» Donc il y a vraiment cette idée-là. Il y a aussi l'idée que c'est un petit peu associé aux sorcières, en fait, à l'image de la sorcière, etc. Alors il y a eu aussi Lio, qui a aussi décidé de poster des photos sans maquillage, avec les cheveux gris, etc. Et qui a aussi reçu pas mal de backlash, mais qui continue dans cette direction, et c'est très bien.
Comment est-ce que, justement, je respecte Senior, voilà, on voit cette médiatisation enfin de ces femmes qui cultivent en tout cas leur amour de l'âge qui avance, comme Lio, comme Fontanelle ou comme Meryl Streep par exemple, qui a également poussé un coup de gueule là-dessus sur la disparition des femmes sur les écrans de cinéma. Vous le percevez aussi positivement?
Mais nous, on le perçoit bien entendu positivement. Je pense qu'il y a Zazie aussi qui s'est essayé à arrêter les teintures. Je crois que ça fait partie aussi d'une évolution dans les mentalités et qui va permettre qu'on ait davantage d'appels de femmes aussi qui se positionnent. On va venir à une thématique un peu compliquée qui est la violence conjugale. Mais je crois que des femmes qui arrivent à dire finalement, non, mon destin n'est pas tracé et j'ai le droit de me positionner, je peux effectivement, comme le dit Sandra, prendre ma liberté, parce qu'on a parfois quand même un souci de méconnaissance des droits. Alors on pense qu'on connaît nos droits, mais pas tant que ça. Moi j'ai régulièrement des appels de dames qui disent « mais mon mari me dit que je n'ai aucun droit, que je ne peux pas décider, que je ne peux pas choisir, et je n'ai pas travaillé, je n'ai pas une carrière complète, etc. » Et donc ça c'est aussi l'idée de se dire « mais c'est pas vrai, voilà, tout le monde a des droits, tout le monde a la possibilité de recommencer, de remettre des choses en question, et ça participe aussi du fait que voilà, l'inclusion des femmes, quel que soit leur âge, dans la société, va leur permettre aussi de s'émanciper et de faire les choix de vie qu'elles souhaitent. Elles ne vont plus se sentir nécessairement obligées de rester dans des situations qui ne sont pas forcément celles qui sont souhaitables.
Eh bien, justement, Sandra, je vais poser la question à deux cents hein, du débat. J'ai même pas peur. À quel âge est-ce qu'on ne peut plus porter un décolleté et des cheveux longs?
Justement, j'ai bien étudié cette question. Je trouve qu'un décolleté ne doit pas être profond. Un décolleté doit être un petit décolleté avec un beau petit bijou. Voilà. Et ce n'est pas une question d'âge. Il faut s'accepter. Je trouve qu'il y a des vêtements qui mettent en valeur toutes les silhouettes. Quand vous regardez dans les jeunes, je viens de regarder un peu la jeunesse ici, mais il y a énormément de jeunes filles qui devraient apprendre à s'habiller selon leur silhouette. Et c'est un peu la même chose avec les seniors, où il y a des petites choses qu'on cache, on n'aime pas ses bras, on met des manches, mais ce n'est pas bien, bien grave. Ce qui est important aussi, c'est de prendre soin de soi-même, mettre des crèmes hydratantes, voilà, tout ça est un tout. Mais je pense que question décolleté. J'ai jamais aimé les décolletés profonds avec les jeunes filles qui font des faux seins, etc. Je trouve ça des exhibitionnistes et je trouve que c'est pas classe du tout. Donc, il vaut mieux deviner que de montrer.
Ça, c'est ton point de vue, effectivement. Oui. Mais justement, ces injonctions à ne pas trop montrer ou à pas montrer du tout, on le voit bien, elles sont souvent faites aux femmes. Toi, Bénédicte, quel regard tu poses sur ces injonctions faites finalement voilà, en lien avec la question du genre, le fait de s'assumer, de valoriser sa silhouette, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à une personne qui se sent mal à l'aise dans son corps, dans son âge, peu importe?
Moi, je pense que chacune fait ce qu'elle veut. Ça fait partie de la liberté du corps. Ça fait partie de la liberté de la femme. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Et toutes les règles qui existent sont toujours liées à une forme de rôle social que les femmes devraient accepter. Donc, soit d'être... si elles se montrent, bah, alors c'est des bimbos sans cervelle. Et si elles ne se montrent pas, c'est qu'elles sont prudes. Et finalement, je pense que la façon dont on s'habille ne regarde que nous-mêmes, quel que soit notre âge.
D'accord avec ça, Pascal Brochet?
Ah oui, je peux aller dans le sens de Bénédicte, effectivement, dans la liberté totale et le fait justement de sortir des carcans qui peuvent nous être imposés. Je pense qu'on peut aussi avoir une lecture où le maquillage pourrait être interprété comme c'est quelque chose que je dois faire pour. Alors, si les gens le font pour eux-mêmes, super, si on le fait pour j'ai envie de dire presque de mauvaises raisons, mais que ça nous déplaît, bah ne faisons pas. Enfin, moi, je vois de plus en plus de jeunes et de plus âgés avec des baskets par tous les temps. Bah, je me dis tant mieux, elles sont confortables. Donc voilà.
Oui, et en même temps, effectivement, se sentir bien avec soi-même, quel que soit notre âge, finalement. Peut-être même que l'âge avançant, on s'émancipe un petit peu plus du regard et des injonctions. En tout cas, je le souhaite. Je vois malgré tout une jeune génération aussi de femmes qui décident de ne plus répondre aux injonctions et de faire exactement ce qu'elles veulent avec leurs cheveux, avec leurs fringues, avec leur corps, etc. Et ça, c'est assez chouette. Donc finalement, à quel âge on ne peut plus porter de décolleté et des cheveux longs, on s'en fout. Cette question n'a aucun sens. On est d'accord. J'aurais jamais dû la poser, mais c'était juste pour le fun. En tout cas, à chacune d'entre vous, j'ai envie de demander, au-delà du glamour et des paillettes, est-ce qu'il y a d'autres situations au quotidien où la question du genre, le fait d'être une femme, aggrave la situation d'agisme? Je vais commencer par toi, Pascal.
Mais donc je citais les violences conjugales. Effectivement, ça n'a pas d'âge. Et donc là, j'avais envie de revenir là-dessus parce que on peut avoir des femmes qui sont mariées depuis peut-être 50 ans, 40 ans, enfin depuis très longtemps, et qui ont vraiment intériorisé au fur et à mesure des années des espèces de phrases comme ça toutes faites qu'on leur a sorties avec quelqu'un qui a une emprise sur elles et qui va leur dire tu vaux rien, t'es nulle, t'es bête, t'es pas capable, tu peux juste faire ça. Et c'est parfois une emprise qui est extrêmement puissante et c'est beaucoup plus difficile pour elles évidemment de s'en dégager parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a la peur, parce que les années ont passé et que ça va savoir et comment est-ce qu'on va me percevoir par rapport à l'extérieur, et parce qu'elles sont convaincues, elles ont été convaincues dans le mauvais sens du terme, qu'elles ne valaient rien, alors qu'il est encore possible d'en sortir même après des années, et que là aussi la société n'offre pas toujours toutes les solutions qu'elle pourrait offrir, parce qu'il existe des maisons d'accueil, bien entendu, et c'est très bien, mais voilà, pour ces femmes plus âgées, régulièrement, c'est soit la maison de repos, ou alors une solution transitoire, hôtel, etc., enfin, un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, et donc on se retrouve dans des situations avec des femmes qui ont besoin d'un temps de recul, d'un temps d'arrêt, pour pouvoir se dégager de cette emprise et reprendre confiance en elle, parce que quand ça fait des années qu'on vous dit que vous ne valez rien, bah vous l'intériorisez bien. Et donc voilà, c'est un peu un message d'espoir aussi de dire il n'est jamais trop tard. Il est toujours possible de sortir de ces situations, même si on est peut-être enlisé dedans depuis des années, et chacun a des droits, et la possibilité d'en sortir existe.
Merci beaucoup Pascal, c'est très puissant ce que tu viens de dire effectivement. Je vois Bénédicte qui opine du chef. Je pense qu'il y a aussi des éléments où tu voudrais intervenir, voilà, des éléments en tout cas où la question du genre impacte réellement et l'âge avançant aggrave certaines situations.
Oui, je rejoins Pascal sur l'idée que c'est jamais trop tard, sauf que pour les femmes, c'est souvent... On leur dit que c'est trop tard, très très jeune, beaucoup plus jeune que les hommes. Parce que l'âgisme et le sexisme, ils se croisent de façon assez pernicieuse pour rendre le vieillissement des femmes plus difficile que celui des hommes, je pense. Et elles sont discriminées sur la base de leur âge beaucoup plus tôt aussi que les hommes. C'est ce que Susan Sontag appelle le double standard du vieillissement. Donc il y a vraiment un double standard dans la façon dont on perçoit le vieillissement des hommes et des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes sont encore beaucoup plus jugées sur leur apparence, alors que les hommes sont plutôt jugés sur leur statut. Comme elles doivent correspondre à des critères de beauté, et dans ces critères de beauté, il y a être blanche, mince et être jeune, à partir d'un moment, la femme, qui est encore considérée comme la femme objet, est un peu perçue comme un pot de yaourt périmé. Donc c'est vraiment ce lien entre l'agisme et le sexisme qui pénalise vraiment les femmes. Un cas très concret de ce double standard du vieillissement, c'est par exemple la façon dont on perçoit la ménopause. Puisque les hommes, ils traversent exactement le même phénomène qui s'appelle l'andropause, mais ce n'est pas du tout discuté, ce n'est pas perçu comme une maladie, comme un défaut du corps ou comme une perte sociale pour l'homme. Tandis que pour les personnes qui traversent la ménopause, vraiment c'est encore défini comme une maladie, une perte d'importance dans la société. Et ça vient du fait, encore une fois, qu'en dehors de l'injonction à rentrer dans des critères de beauté, une autre injonction pour les femmes, c'est que leur valeur ne se base que sur le fait qu'elles peuvent procréer. Donc ça, c'est encore extrêmement réducteur. Alors la ménopause, bien sûr, elle peut donner lieu à des symptômes qui sont pas chouettes, et il faut continuer à faire de la recherche, et il faut continuer à pouvoir soulager les femmes de ces symptômes-là. Mais il faut arrêter d'en parler comme une maladie et comme une perte ou un défaut du corps, quoi. Parce que c'est tout à fait naturel. Et en plus, c'est même une évolution qui est positive pour le corps des femmes. Parce que la ménopause, donc c'est l'arrêt de production de certains hormones. Et ça permet à certains cancers, par exemple, d'avancer plus lentement. Donc c'est un gain, en fait. C'est une façon de vivre plus longtemps d'être ménopausée. C'est le corps qui met en place une autoprotection.
Ben justement, Sandra, je vais te poser une question avant de poser la même question aux deux autres intervenantes. Est-ce que tu penses qu'on sera bientôt prête à regarder la vieillesse sans en avoir peur ?
Mais tout à fait, on l'est déjà. Je crois qu'on l'est déjà. Il faut se prendre en main, réagir. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est ce que je dis. Et c'est plein d'espoir et plein de choses à faire.
Super. Pascal ?
Je crois que j'aurais une réponse un petit peu plus nuancée. Mais j'ai l'impression que les générations ne se côtoient pas toujours énormément et que du coup, on va entretenir un petit peu pour le moment les aînés n'ont plus de vie intime ou des aînés qui vont dire par rapport à des jeunes, il est évident qu'une maman, ça doit s'occuper de ses enfants et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas, etc. Et du coup, il y a un climat peut-être de méconnaissance qui entretient une certaine peur de l'autre, quand on ne se côtoie pas, quand on ne se rencontre pas, ça ne développe pas l'empathie. Et du coup, on a l'impression que les générations qui ne se côtoient plus suffisamment, et ça je pense que au jour le jour, on le constate quand même beaucoup, il y a peu de lieux de rencontre, il y a parfois des grands-parents qui sont fort éloignés, etc. Ça ne contribue pas au fait de se connaître, de se reconnaître, et du coup, de participer au vivre ensemble. Et donc, s'il y a davantage d'initiatives intergénérationnelles, de lieux de rencontre, cette peur et cette méconnaissance de l'autre pourraient être levées, parce que moi, je rencontre aussi des aînés qui tiennent des propos agistes envers des jeunes, et je pense que c'est important de ne pas avoir une vision angélique de l'une ou l'autre génération, et je pense qu'il y a des jeunes qui ont des propos qui peuvent être très désagréables par rapport aux aînés, mais quand ces gens se rencontrent, quand on fait des animations dans les écoles et qu'on explique un peu, qu'est-ce que c'est, ces préjugés, ils se lèvent très vite, parce que si on dit, les jeunes sont toujours sur le GSM, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Au départ, il y en a une partie qui sera d'accord, une partie qui ne sera pas d'accord, et puis ça va se nuancer, non, moi pas, mais moi, mes parents, ils y sont beaucoup, etc. Et donc, on se rend compte que une telle activité n'est pas l'apanage d'un âge, en fait. Voir sortir de ces représentations suppose d'en discuter et de partager entre générations.
Mmh. Oui, je pense à ma grand-mère qui a eu la dernière génération de GSM bien avant moi. Donc, elle est vachement mieux équipée. Et toi, justement, Bénédicte, est-ce que tu penses qu'on sera bientôt prête à regarder la vieillesse sans en avoir peur ?
Alors, moi, je suis un peu plus pessimiste parce que je pense que pour déconstruire l'agisme et le regard qu'on a sur la vieillesse, il faut déconstruire un système qui dépasse de loin l'agisme et qui est le capitalisme et le néo-capitalisme, dans lequel j'ai l'impression qu'on s'enfonce un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que il est vraiment à la base de l'agisme dans le sens que ce système il divise les gens entre productifs et improductifs sur la base du travail, de l'emploi. Et or, quand on vieillit, on sort du monde de l'emploi et donc on est considéré comme inutile, comme un poids pour la société, et la vieillesse est perçue comme une période vraiment horrible de la vie qui ne sert plus à rien. Et ça, c'est vraiment lié à cette idéologie-là qui met toute la valeur humaine, en fait, sur le fait qu'on participe au capital, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire de notre vie que de participer au capital. Donc voilà, je pense qu'on peut sensibiliser et minimiser les impacts de l'agisme sur les personnes, mais il va falloir faire un travail de fond avec tous les gens, main dans la main avec tous les gens qui luttent contre différents types de discrimination, parce que tout est lié sous ce capitalisme-là, et avec, en fait... assurer la fin de la hiérarchisation du vivant, en fait.
Eh bien, tu peux compter sur le mouvement Présence Action Culturelle pour en être, en tout cas. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais savoir si vous avez envie de parler d'un projet à venir en particulier. C'est le moment, c'est l'instant. Le micro est ouvert à vous. Je pense, Sandra, toi, tu as un projet, tu as toujours un projet dans tes cartons. Quoi.
Toujours un projet, c'est vrai. Je m'intéresse énormément à la vie des seniors. Et je vais bientôt organiser des coachings spéciaux seniors, donc pour donner de l'assurance, pour donner de l'espoir, et aussi la façon de réagir à certaines choses. Ce sera un coaching qui sera bien, bien étudié et très bien fait, et aussi des conseils pour la santé, des conseils pour la beauté, et pour rester jeune, on va dire.
Alors, Pascal, chez Respect Senior.
Peut-être rappeler juste le numéro de téléphone de Respect Senior, donc c'est le 0800 30 330, donc voilà, pour toute la région wallonne, on a une antenne par province, et donc on est à disposition de toute personne qui se pose des questions sur ce qu'est la maltraitance, l'agisme, donc n'hésitez pas.
À toi, Bénédicte.
Nous, à l'IAGE, on a un compte Instagram qui s'appelle Laisse les rites tranquilles, et sur lequel on parle que d'agisme et de ses croisements avec différentes discriminations. Donc déjà, allez nous suivre. Et sinon, à part ça, cette année, on va sortir un jeu de société sur l'agisme, donc un outil pédagogique, et une étude sur le lien entre l'hypersexualisation des jeunes femmes et la sous-sexualisation des femmes âgées. Donc c'est notre trois projets principaux sur l'agisme pour le moment.
Trop bien, on a hâte de découvrir ça. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. L'occasion pour moi de remercier chacune d'entre vous pour votre façon si singulière de convaincre celles et ceux qui nous écoutent que vieillir, finalement, c'est pas un déclin, c'est un privilège. Merci beaucoup, bon festival à toutes et tous.
Merci. Solidarité.
Croiser les luttes, unir nos voix.
Festival des solidarités.
S'écouter.
Unir nos voix.
S'engager.
Résister.
Comprendre.
Respecter.
Déblayer. Unir nos voix.